Louis XIII, 15 ans, arrive le dernier au conseil du roi. Son conseil. Tout le monde est déjà à l'œuvre. Malgré les salutations qu'il reçoit, personne ne se soucie de lui. Les conseillers ne lui accordent aucune attention, concentrés sur le personnage qui mène les affaires du royaume depuis déjà 5 ans. Quand le jeune homme prend la parole, une main autoritaire l'interrompt. « Retournez donc jouer avec vos oiseaux, sire !» Louis baisse la tête et quitte les lieux sans mot dire, les dents serrées. Le personnage qui vient de le mettre à la porte sans ménagement, c'est sa mère, Marie de Médicis.
Ah. Mais non, il n'y avait pas.
Wouah. Radio Wouah, il n'y a pas, le podcast qui revient sur ces gens qui n'existaient pas à ces époques-là. Née à Florence en avril 1575, Maria de Medici est l'une des deux filles du grand-duc de Toscane, François Ier de Médicis, et de son épouse, Jeanne d'Autriche. Parti avantageux, la jeune fille repoussera plusieurs demandes en mariage prestigieuses, car un oracle lui a prédit qu'elle porterait une couronne royale. Une obsession qui paiera, car à 28 ans, elle épouse Henri IV, roi de France et de Navarre. Si son mariage est fécond, elle mettra au monde 6 enfants, dont 5 atteignent l'âge adulte, les relations avec son époux sont tumultueuses. En amour, Henri IV n'est pas vraiment un homme fidèle. Bien qu'elle ne prenne pas particulièrement part au pouvoir, Marie de Médicis se fait sacrée reine de France le 13 mai 1610. Le lendemain, elle est veuve, Henri IV est assassiné par Ravaillac. Avec l'aide du duc d'Épernon, elle s'empare de la régence. Louis XIII n'est âgé que de 8 ans. À partir du moment où elle prend le pouvoir, plus jamais elle ne le lâchera. Elle ne suit pas la politique de son époux et décide de se rapprocher de l'Espagne. Elle rassemble les états généraux en 1614 pour apaiser les troupes dirigées contre elle par le prince de Condé. Elle finira par le faire arrêter. Les mariages espagnols, c'est-à-dire ceux unissant Louis XIII et Anne d'Autriche et Élisabeth avec l'infant Philippe IV, marquent le point d'orgue de sa régence. Par ailleurs, elle prend soin de tenir le jeune roi éloigné du pouvoir, le jugeant inapte. Mais en 1617, elle est chassée du pouvoir par Louis XIII et exilée à Blois. Loin d'être résignée, elle s'échappe, toujours avec l'aide du duc d'Épernon, plongeant le royaume dans deux guerres de la mère et du fils entre 1619 et 1620. De retour à Paris, elle fréquente le conseil du roi où elle introduit l'un de ses favoris, le cardinal de Richelieu. Erreur, puisque le talentueux cardinal prend une place de plus en plus importante dans les affaires du pays auprès de Louis XIII. Quand Marie de Médicis décide de s'en débarrasser, il est trop tard. C'est la journée des dupes. Louis choisit son ministre au détriment de sa mère. Disgraciée, Marie de Médicis fuit, en exil, à Bruxelles. Depuis l'étranger, elle ne cessera de s'opposer à Louis XIII et Richelieu et de comploter avec ses autres enfants contre la France. Durant toute sa vie, Marie de Médicis développera un fort mécénat artistique. Elle fait réaliser de nombreuses peintures, fait embellir et réaménager certaines parties du Louvre et fait construire le palais du Luxembourg et assure sa décoration. Elle décède dans une maison prêtée par son ami Rubens en juillet 1642 à Cologne. Son corps sera inhumé à la basilique Saint-Denis au début de l'année 1643. Femme incontournable du règne de Louis XIII, elle est pourtant complètement invisibilisée. Invisibilisation accentuée par l'œuvre d'Alexandre Dumas qui l'a fait totalement disparaître au profit d'un ennemi imaginaire de Louis XIII, le cardinal de Richelieu. J'espère que cette présentation de Marie de Médicis vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez me payer un petit thé sur mon compte Ko-fi. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux personnages hauts en couleur. À 10 chattes !